Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Le convoi dit des 31 000, nommé ainsi à cause des matricules attribuées aux déportés qu'il transportait, est arrivé à Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1943. Il est le seul convoi de résistantes à avoir été dirigé vers Auschwitz-Birkenau. Les 230 femmes de ce transport, dont beaucoup étaient communistes, passèrent la porte du camp en chantant la Marseillaise. Parmi elles, Charlotte Delbault, Marie Politzer, Hélène Solomon, Daniel Casanova. En 1944, la cinquantaine qui était encore en vie fut envoyée vers le camp de Ravensbrück, puis vers d'autres camps en mars 1945, avant leur libération en avril. Seules 49 femmes du convoi des 31 000 survécurent à leur déportation. Marie-Claude Vaillant-Couturier était de ces survivantes. Elle témoignera au procès de Nuremberg face à la brochette des dignitaires nazis qui fuyaient son regard. Devenue députée, elle défendra devant l'Assemblée l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Présidente de la Fondation pour la mémoire de la déportation à sa création, puis présidente d'honneur jusqu'à sa mort en 1996, elle témoignera encore au procès de Klaus Barbie. 50 ans après la libération des camps, au micro de Georges Léon, Marie-Claude Vaillant-Couturier revenait sur un siècle qu'elle aura vécu dans sa chair et sur la résistance de celles et ceux qui, comme elle, ne s'étaient pas résignés.
Paris, 1912, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, Marie-Claude vient au monde, première fille de Lucien Vogel, l'un des grands de la presse française, l'inventeur de l'hebdomadaire illustré Vue, auquel tant de magazines dans le monde doivent d'exister encore aujourd'hui, Life par exemple. Lucien Vogel, l'inventeur aussi de Lu et, entre autres publications, de la Gazette du Bon Ton, une revue de très grand luxe. Marie-Claude Vogel, épouse de Paul Vaillant-Couturier. Paul Vaillant-Couturier, écrivain, peintre, dirigeant du Parti communiste français, journaliste, rédacteur en chef de l'Humanité, qui meurt en 1937. Marie-Claude est veuve à 25 ans. Elle milite. La guerre venue, elle est bientôt arrêtée, déportée. À son retour des camps, membre du comité central du Parti communiste français, elle est élue à la députation. Plus tard, elle deviendra vice-présidente de l'Assemblée nationale et témoignera à Nuremberg. Une femme. Marie-Claude Vaillant-Couturier ne commente pas l'événement, elle est événement elle-même. Elle est mémoire dans le siècle. Elle témoigne.
Mon père avait fondé un journal qui avait cette spécialité d'être un journal de mode dessiné par des artistes qui n'étaient pas des dessinateurs de mode et qui étaient écrits par des écrivains qui n'étaient pas non plus des rédacteurs de mode. Et c'est une revue extraordinaire parce que c'est impensable aujourd'hui. On ne pourrait pas imprimer ça et le vendre. Tellement ça serait cher, étant donné la qualité du papier, toutes les pages en couleur qui donnaient l'impression d'être des originaux. Alors, c'était une gazette de grand luxe. C'est effectivement à cette époque-là que mon père a édité pour Eric Satie, Sport et divertissement, avec des illustrations de Charles Martin, qui était également un illustrateur du Bon Ton.
Thank you.
Vous avez toujours eu l'envie de peindre.
Oui, c'est pour ça que j'avais envie de devenir un peintre. Et j'avais des problèmes avec ma mère parce que, après mon bachot, elle trouvait que la peinture, ça pouvait se faire le dimanche, mais que ce n'était pas un métier. Alors j'ai été passé un certain temps en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et en même temps, je suivais les cours de dessin. Alors j'ai d'abord été dans un pensionnat de jeunes filles à Dresde. Et comme j'étais élevé dans une famille qui avait des principes de liberté, quand je me suis trouvé dans un pensionnat où on ne sortait jamais seul, mais toujours deux par deux avec une institutrice devant, j'étais arrivé avec une amie et nous nous sommes dit « ça c'est pas possible, on ne peut pas rester là-dedans ». J'avais 17 ans. En partant de Dresde, j'ai été chez une cousine de mon père qui habitait Berlin. Et c'est là que j'ai passé un an, l'année suivante, c'était donc 2 ans avant Hitler, et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ce monde, parce que c'était l'époque où il y avait 7 millions de chômeurs sur 60 millions d'habitants. On considérait que ça faisait 21 millions de personnes sous-alimentées. Et en même temps qu'on rencontrait le long des rues, des grandes rues de Berlin, genre avenue de l'Opéra, un chômeur après l'autre, enfin un jeune qui vendait des cartes postales, des épingles, ou qui mendiait tout simplement, ou qui jouait un peu de musique, et puis des filles qui faisaient le trottoir pour 50 pfennigs. En même temps, beaucoup d'argent était dépensé. Et je me rappelle qu'une des choses qui m'avait beaucoup frappé, c'est que j'avais un cousin qui était de passage à Berlin, qui m'avait emmené dîner et danser. Et par hasard, en jetant un coup d'œil sur la note, j'ai vu que c'était à peu près la somme que j'avais entendue être la location de chômeur pour une semaine. Alors, en même temps, c'était l'époque où on jetait en Hollande le lait dans les canaux, alors qu'il y avait des familles qui n'avaient pas de lait pour leur bébé. C'est vraiment là que j'ai pris le plus conscience des injustices de ce monde. Également, je dois dire que la première conscience que j'en ai, c'est plutôt que ça. Quand j'avais 12 ans, la fille du jardinier était une bonne élève. Et après son certificat d'études, elle est entrée en apprentissage. Et moi, j'étais une bonne élève, mais sans rien se casser. Et quand j'ai réalisé qu'elle était obligée d'entrer en apprentissage et que moi, je poursuivais des études uniquement parce que mon père en avait les moyens, parce qu'il faut penser qu'en plus, à l'époque, les lycées n'étaient pas gratuits. Je me suis dit, c'est quand même injuste. L'inégalité des chances. Ça, c'est peut-être la première prise de conscience.
L'Allemagne.
À l'Académie des Beaux-Arts, où j'allais, en plus des cours d'allemand, mais qui était ce que vraiment j'avais envie de faire, j'ai constaté que, peu à peu, la propagande d'Hitler prenait sur mes condisciples, et en particulier le racisme. J'étais d'une famille profondément antiraciste. Mes deux grands-pères avaient été Dreyfusards à l'époque. Et j'étais très choqué par la propagande d'Hitler et inquiète par le fait que ces jeunes qui étaient sans perspective à cause de la crise étaient sensibles à l'argument « C'est parce que les Juifs prennent toutes les places qu'il n'y en aura pas pour nous. » Je suis retourné en France et l'année d'après, en 1932, moi, je suivais des cours dans une école d'art décoratif. Et mon père, qui ne savait pas l'allemand, m'a emmené pour le numéro spécial de vue sur l'Allemagne comme interprète.
Mémoire du siècle, Marie-Claude Vaillant-Couturier parle de Vue hebdomadaire fondée par son père en 1928.
C'était le premier journal hebdomadaire illustré où la photographie jouait un rôle déterminant. Et j'ai surtout été avec Philippe Soupeau. D'abord, nous avons été voir les différents partis politiques. En ce qui concerne Soupeau, je me souviens avoir été visiter des centres de jeunesse hitlérienne, d'une part, et d'autre part, le Parti communiste allemand. J'ai du reste vu pour la première fois un homme que j'ai bien connu par la suite, après la guerre, parce qu'il avait été émigré en France, Franz Dahlem. Et nous avons été reçus par lui parce qu'il avait entre autres l'avantage de parler français, étant né en Lorraine. Mais en même temps, nous nous sommes trouvés dans l'ascenseur avec Hitler, au Kaiserhof, qui était l'hôtel où Hitler avait son quartier général. Alors, nous avons été sidérés d'être dans l'ascenseur, et Philippe Soupeau m'a dit en sortant dire qu'on aurait pu le tuer, parce que nous ne savions pas encore ce qui allait se passer par la suite. Mais nous avions été effrayés parce que on voyait l'influence grandissante d'Hitler. Et nous avions assisté, 2 ou 3 jours avant, à un meeting d'Hitler au Sportpalast. Et nous avions vu une foule fanatisée, mais absolument fanatisée. On se serait fait lyncher si on avait pipé. Et ce qui m'avait énormément surpris, et pourtant j'étais vraiment jeune, c'était la démagogie de son programme, et entre autres cette phrase: ce que chacun d'entre vous souhaite, c'est ça que nous voulons réaliser. Et après le voyage en Allemagne avec mon père, je lui ai dit que je voudrais apprendre la photographie, plutôt pour devenir reporter photographe. Il était tout à fait favorable à ce que il m'a envoyé faire un stage à la néogravure, l'imprimerie de vue, et en même temps apprendre la photographie sur le tas, avec les photographes qui travaillaient pour vue. En permanence, un qui s'appelait Gaston Paris, mais il m'a aussi envoyé faire accompagner des reporters. Par exemple, je me souviens bien d'un reportage que j'ai été faire avec Kertész, c'est-à-dire c'est Kertész qui faisait le reportage, qui m'expliquait pourquoi il prenait telle photo plutôt que telle autre. Et il était très ému quand, 40 ans après, je l'ai rencontré et que nous avions beaucoup changé et qu'il s'est souvenu de ceci. En même temps, enfin, le passage en Allemagne et le fait que j'y avais rencontré des communistes qui avaient parlé de leur programme, des communistes allemands qui avaient parlé de leur programme, avaient fait que je m'intéressais au communisme. Quelques temps après, de cette même année 32, Vaillant Couturier est venu déjeuner à la maison chez mes parents à la faisanderie dans la forêt de Saint-Germain. Et je me suis souvenu que la première fois que j'avais entendu son nom, c'était quelques années avant, en 1928. Mon père avait raconté à table qu'il avait été visiter Vaillant Couturier dans sa prison, qui était à la Santé à l'époque, condamné pour des articles. Et que Vaillant Couturier faisait de la peinture. Alors ça m'avait intéressé à l'époque. Et puis je l'ai connu. Et il revenait d'un long séjour en Union soviétique. Alors il a raconté beaucoup de choses à table. Et comme je lui ai posé beaucoup de questions, pas seulement sur l'Union soviétique, mais en discutant, il a appris que j'étais reporter photographe. Et il m'a dit qu'il existait une organisation qui s'appelait l'AEAR, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui avait une section photographique. Alors j'ai adhéré à l'AEAR, et à cette section photographique, j'ai connu des gens comme Cartier-Bresson, Chim, qui s'appelait Seymour Chim, mais moi je l'ai connu sous le nom de Chim à l'époque, Kappa, Élie Lothar, Villironis, ça a été indiscutablement quelque chose de très formateur. Parce que si je n'avais pas de conversation privée avec eux, je les entendais discuter. Ensuite, alors, en dehors de l'AER, ce qui a été la goutte d'eau qui avait débordé le vase et qui a fait que je suis devenu communiste, ce sont les événements de février, du 6 février 1934. Parce que j'avais vraiment suivi de très près les événements d'Allemagne. D'une part, parce que j'y avais été, l'année 32, mais j'y étais retourné en 33 comme reporter photographe pour faire un reportage illégalement. C'était à Pâques 33, c'est-à-dire très peu de temps après la prise de pouvoir d'Hitler. Et entre autres photos, j'avais photographié l'entrée du camp de Dachau et à travers les grillages, le camp d'Oranienburg qui, lui, le camp de Dachau, se trouvait à l'extérieur de la ville, tandis que le camp d'Oranienburg était une brasserie désaffectée qui se trouvait à l'intérieur du camp. Et on pouvait voir à travers les grillages, ce lundi de Pâques, des familles qui étaient venues voir des emprisonnés. Donc je savais qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne. J'avais eu des contacts avec des gens qui étaient déjà semi-légaux ou tout à fait illégaux pendant ce séjour en Allemagne. Et ensuite, j'avais connu beaucoup d'émigrés allemands en rentrant en France. Par conséquent, quand il y a eu les événements du 6 février, la crainte d'un putsch fasciste, je me suis dit, mais c'est pas possible de ne pas s'engager complètement parce que tout plutôt que le fascisme. Et c'est comme ça que j'ai adhéré au Parti communiste.
France Culture, mémoire du siècle, celle un instant de Paul Vaillant Couturier.
C'était un homme extrêmement brillant et passionné partout. Il était passionné par la vie, passionné par son métier de journaliste, passionné par son activité politique. Il aimait tout avec passion. Aussi la chasse, la pêche, son village natal de Sainte-Croix-Volvestre. Et il avait une passion communicative. J'ai vécu 3 ans et demi avec lui. Il est mort en 1937, en octobre 37. Et j'avais moins de 25 ans quand il est mort. Je me rappelle que le dernier été, que nous avons pas, enfin les vacances à Sainte-Croix et dans l'Ariège, en marchant, je me disais, je me rappellerai en tout cas, quoi qu'il arrive dans la vie, que j'ai été parfaitement heureuse. Et je me disais, ce qui doit être différent pour les croyants, c'est que devant la mort, il doit y avoir une perspective qui n'existe pas chez les athées. Et au moment de l'enterrement de Vaillant, il y avait une telle foule et une telle communion de cette foule que j'avais un peu l'impression que c'était comme un grand fleuve et que j'étais une goutte d'eau de ce fleuve et qu'il y avait une continuité. Et ça m'a formidablement aidé. En fait, je n'ai pas travaillé avec Vaillant Couturier, sauf pour un reportage en Espagne où je l'ai accompagné du côté de Saint-Sébastien et Irún au début de la guerre d'Espagne. Je suis du reste retourné en Espagne après la mort de Vaillant Couturier. Entre-temps, je suis devenu reporter photographe à l'Humanité et j'ai été faire un reportage, pas pour l'Humanité. Philippe Lamour, que connaissait mon père, devait faire un reportage sur les brigades internationales pour le journal L'Illustration. Et il m'avait demandé si ça m'intéressait. Alors là, nous avons été de l'autre côté. C'était après la bataille de l'Èbre. Et c'est là que j'ai connu Roll, qui s'appelait à l'époque Tanguy, qui était commissaire politique aux brigades internationales, à la brigade française. Enfin, ça me paraissait horrible et absurde. C'était l'été, il faisait beau, et en Espagne, il y avait la guerre, la mort, la faim, parce que tout était rationné. Et en même temps, il y avait cet extraordinaire élan de ces volontaires. Et je me rappelle que ce qui m'avait particulièrement frappé, c'était la brigade Lincoln. Parce que nous, c'était proche, l'Espagne. C'était compréhensible pour nous. Enfin, c'était très sensible pour nous que, en se battant pour l'Espagne républicaine, nous nous battions réellement pour nous défendre nous-mêmes contre Hitler. Mais je me rappelle avoir parlé avec un jeune qui venait du lac Michigan. Et c'était vraiment une extraordinaire épopée. Pour ces jeunes qui étaient si loin, et il y a eu plus de 3000 morts dans la brigade Lincoln, et déjà à l'époque, c'est un des souvenirs très émouvants de ma vie. Ce gars qui était venu de si loin pour se battre pour la liberté. Madrid, your tears of sorrow, mamita mia, we shall avenge them, we shall avenge them. Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han dado, que se han dado. Dans la même période, tout en étant reporter à l'Humanité, je militais à l'Union des jeunes filles de France et j'ai été membre du secrétariat. Et c'est là que j'ai très bien connu Danielle Casanova parce que je collaborais avec elle à la confection du journal Filles de France. Et c'était quelqu'un vraiment d'une valeur tout à fait exceptionnelle. Nous avons collaboré très intimement. D'une part à l'UJFF, et ensuite, il se trouve que nous nous sommes vus quelques fois dans l'illégalité, mais peu de fois, parce que nous n'étions pas tout à fait dans la même branche. Elle était en contact pour les intellectuels avec Politzer, et moi je l'étais aussi, parce que je m'occupais des questions d'impression. Et j'ai, par exemple, corrigé les épreuves d'articles de Gabriel Péri ou du pamphlet de Politzer qui s'appelait « Révolution et contre-révolution au XXe siècle » et qui était une réponse à une œuvre de Rosenberg, le théoricien nazi, qui s'appelait « Or et sang ».
Mémoire du siècle, Marie-Claude Vaillant-Couturier évoque maintenant l'homme dont elle fut la compagne durant 40 années, Pierre Villon.
J'ai vécu avec Pierre Villon, enfin avec celui qui devait devenir Pierre Villon, puisqu'il ne s'appelait pas Pierre Villon à l'époque, je crois qu'il s'appelait Valentin. Je connaissais Villon déjà depuis la EAR parce qu'il était secrétaire de la section architecture, étant lui-même architecte. Puis nous nous sommes retrouvés dans l'illégalité et nous avons commencé à vivre ensemble, très peu de temps, quelques mois à peine, parce qu'il avait été arrêté en s'occupant de l'impression de brochures pour le parti. Il avait été arrêté le 8 novembre, je crois, 1940, Et il venait de s'évader le 27 janvier 1942. Et moi, j'ai été arrêtée 3 semaines après. Alors, ils m'ont emmené à la préfecture. Et ça n'a pas duré 5 minutes avant qu'ils sachent qui j'étais. Parce que j'avais une carte d'identité légale, mais au nom de Marie Couturier. Alors, c'était magnifique dans le cas d'une rafle, parce que c'était une vraie carte d'identité, et que Couturier, il y en a plein la France. Il y en a même tellement plein la France que quand j'ai été arrêtée, ça a duré 5 minutes, ils ont su que j'étais la veuve de Vaillant Couturier et la fille de Lucien Vogel qui avait émigré aux États-Unis. Et ils m'ont gardé dans les bureaux de la préfecture et ils voulaient mon adresse. Pour avoir mon adresse, ils ont d'une part publié ma photo en mettant dans tous les journaux « Cette personne a été trouvée en état d'amnésie. Toute personne pouvant donner des renseignements sur elle est priée de s'adresser à la préfecture de police. » Et ils étaient tellement contents de leur affaire qu'ils me l'ont montré. Et quand j'ai vu ça, je les aurais embrassés parce que je me suis dit « Maintenant, plus rien ne risque à tous ceux qui ont rendez-vous avec moi, ils n'iront à aucun repêchage puisqu'ils savent où je suis. » Et l'autre chose anecdotique aussi, à propos des couturiers, c'est que les flics qui me gardaient nuit et jour et qui étaient des flics, parce que je suis resté 8 jours à la préfecture de police, dans les bureaux, et c'était des flics en uniforme. Je racontais que j'avais été arrêté en donnant mon nom parce que je me disais, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui le fera savoir. Ça, c'était avant qui m'ait montré la photo. Mais il y en a un qui m'a raconté que la veille, il était dans une salle où tout le monde s'appelait couturier. Et c'est parce que dans mon carnet, j'avais une adresse. Et les flics m'avaient demandé ce que c'était que cette adresse, et je leur avais dit que c'était une adresse de sucre de maïs, parce que le sucre de maïs était en vente libre. Et je m'étais dit, j'avais pris cette adresse en me disant, pour les camarades qui sont illégaux, on a toujours des problèmes de ravitaillement. Le sucre de maïs, c'est peut-être pas très bon, mais ça doit être nourrissant. Et j'ai pris l'adresse. Alors, ils ont téléphoné aux fabricants de sucre de maïs. Ils leur ont dit, est-ce que vous avez des couturiers dans votre clientèle? Les autres ont dit, oui, on en a 12. Alors, ils ont été chercher les 12 couturiers et ils ont perquisitionné chez eux. J'espère qu'aucun d'eux n'a été arrêté à cause de moi et qu'il ne leur est rien arrivé d'autre que de passer une demi-journée à la préfecture. Alors, à la préfecture, sont arrivés les camarades avec lesquels j'étais vraiment en relation. Et c'est là que j'ai vu arriver peu à peu Daniel Casanova, Paul Itzer, Jacques Solomon, l'écrivain Jacques Decour, et toute une série d'autres. Dalidé, qui était un des responsables du parti. Et on s'est trouvé à près d'une centaine. Alors, nous avons été donc tous arrêtés par la police de Vichy et livrés aux Allemands qui nous ont considérés comme otages. Alors, ils ont fusillé en plusieurs fois tous les hommes. En 2 paquets, en 2 groupes, au mois de mai, Paul Itzer, Solomon, Ludac, Jacques Decour, Dalidé. Et nous, nous sommes restés à la santé jusqu'au mois d'août. Et dans le courant d'août, nous avons été transférés au camp de Romainville. Là, le 15 août et le 11 septembre, ils ont encore fusillé le reste des camarades. Et les femmes ont été déportées à Auschwitz. On est parti de Romainville et de Compiègne pour Compiègne et de Compiègne pour Auschwitz le 24 janvier 1943. Paul Itzer était dans la même division que moi à la santé, où il y a plusieurs divisions et nous n'étions pas tous dans la même. Et quelque temps avant d'être fusillé, il m'avait dit, en parlant par les tuyaux qui sortaient de nos cellules, les tuyaux d'évacuation, que maintenant, il avait son nouveau livre entièrement écrit dans sa tête, et que s'il avait pu avoir du papier et un crayon, il aurait écrit sans une rature du commencement à la fin. Et quand on a fusillé Politzer, à la peine que peut vous causer la mort d'un ami cher, s'ajoutait la révolte que j'avais en pensant que ce livre de Politzer, qui était un jeune philosophe brillant, faisait partie de notre patrimoine culturel et nous était arraché.
France Culture, Mémoire du siècle, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Auschwitz, 1943.
Nous sommes arrivés à Auschwitz dans l'horreur indescriptible, parce que je ne veux pas raconter en détail, ça a été fait souvent, mais un endroit, d'abord en ce qui concerne notre convoi, nous n'étions pas juifs, nous étions le premier convoi, je ne sais pas pourquoi nous avons été à Auschwitz, parce que tous les convois de Françaises résistantes ensuite ont été à Ravensbrück, mais nous avons été envoyés à Auschwitz. Et comme nous n'étions pas juifs, personne n'a été gazé en arrivant, nous sommes tous entrés dans le camp. Mais nous étions 230, fin janvier, et quand nous avons été envoyés dans un bloc de quarantaine en juillet, nous n'étions plus que 56, et il n'en est revenu que 49 en France. C'est pour donner la mesure des conditions de vie d'Auschwitz, et je dis, nous n'étions pas juifs, c'est-à-dire que les conditions pour les juifs étaient non seulement beaucoup plus atroces, puisque la majorité des convois allaient directement à la chambre à gaz et qu'il ne restait, c'est-à-dire les vieillards, les mères et les enfants, et tous ceux qui avaient l'air d'être en mauvaise santé, allaient directement à la chambre à gaz, n'étaient pas même tatoués ni comptés, mais qu'en plus, à l'intérieur du camp même, les conditions de survie des Juifs étaient beaucoup plus atroces encore que les nôtres. Par exemple, quand nous étions à Romainville, il y avait des camarades qui étaient juifs parmi nous et qui avaient été arrêtés comme résistantes. Quand nous sommes partis pour Auschwitz, elles avaient été séparées de nous. Elles ont été envoyées à Drancy et 3 semaines après nous, un convoi de Drancy dans lequel elle se trouvait est arrivée. Et de ce qu'on voit, il n'y a pas de survivante.
Est-ce à Auschwitz que vous retrouvez Daniel Casanova?
Mais Daniel Casanova, je ne l'ai jamais quitté. Parce que nous avons été arrêtés ensemble. Nous avons été ensemble, pas dans la même cellule, ni même dans la même division. Mais nous nous sommes retrouvés à la sortie des 5 mois de cellule de santé au fort de Romainville, et au fort de Romainville, nous étions dans la même chambrée, où nous étions une soixantaine, et que Daniel animait. Elle était quelqu'un d'extraordinairement vivant et curieux de tous les aspects de la vie, et c'était normal qu'elle soit devenue, avant la guerre, la secrétaire générale de l'Union des jeunes filles de France, parce qu'elle était une animatrice née. Elle rendait supportable, y compris la vie dans notre chambrée de Romainville, parce qu'elle savait animer et exalter chacun de façon à ce qu'on soit digne de la lutte qu'on menait. Et c'est une aide pour supporter les choses. Alors, elle est morte malheureusement très très rapidement à Auschwitz. Elle nous a énormément aidés parce que, étant dentiste, elle avait été mise à part parce qu'une des anomalies du camp d'Auschwitz, c'est qu'on gazait les gens, on les faisait crever sur place à coups de bâton, de matraque, de typhus, de dysenterie, etc. Mais il y avait des gens à qui on arrachait des dents et on envoyait ces statistiques à Berlin pour montrer, pour la contre-propagande, pour montrer que c'était pas vrai que les camps de concentration allemands étaient tout ce qu'on en disait. La preuve, c'est qu'on y soignait les dents. Alors comme Danielle était dentiste, elle a très rapidement été en contact avec le mouvement de la résistance internationale du camp. Et c'est grâce à elle et à ses contacts qu'on a pu savoir en France, au bout de quelques mois, que c'est là que nous étions. Mais malheureusement, pour elle et pour nous, elle a attrapé un typhus très très fort, et alors que moi je suis sortie du typhus et je n'en suis pas morte, elle est morte le 10 mai 1943, c'est-à-dire très peu de temps après notre arrivée. Après 18 mois d'Auschwitz, c'est-à-dire, quand je dis nous, je veux dire le petit groupe de survivantes, Ravensbrück, nous nous sommes dit, oh, mais ici, il y a des femmes avec des cheveux blancs. C'est quand même différent. Parce que nous, les plus vieilles et les plus jeunes, étaient mortes, mais en quelques semaines. Il n'y avait pas de femmes à cheveux blancs qui restaient dans notre convoi. Et Ravensbrück était un camp qui était dur au départ pour la discipline, mais qui était un camp de travail. C'était en quelque sorte un camp où se faisait un triage pour envoyer les femmes dans différents commandos à travers toute l'Allemagne pour travailler dans les usines, y compris à Ravensbrück même, où on les envoyait, celles qui restaient à Ravensbrück, une partie travaillait chez Siemens, et d'autres travaillaient à l'intérieur du camp pour fabriquer des tissus. Au départ, c'était surtout extrêmement dur comme discipline. Naturellement, on était insuffisamment nourris. Naturellement, on risquait sans arrêt d'être attrapé et envoyé au Strafblock, c'est-à-dire au bunker. Mais peu à peu, au fur et à mesure que les mois passaient, les conditions sont devenues de plus en plus dures et la chasse aux bouches inutiles de plus en plus menée avec beaucoup d'efficacité. C'est-à-dire que toutes celles qui n'étaient plus aptes au travail, eh bien, d'une manière ou d'une autre, on les exterminait. J'ai oublié de dire que, comme à Auschwitz, où il y avait des expériences sur des cobayes humains, à Ravensbrück, il y en avait aussi, en particulier sur de jeunes polonaises sur lesquelles les SS faisaient des expériences en leur inoculant des bacilles pour créer artificiellement des blessures de toutes sortes, et étudier les effets sur elles. Un grand nombre sont mortes, et beaucoup ont eu. Parmi les quelques survivantes, elles ont beaucoup souffert. Le caractère de la résistance était différent à Auschwitz et à Ravensbrück. À Auschwitz, c'était un camp où il y avait des hommes et des femmes. Et même dans le camp de femmes, on avait des contacts avec des hommes, les camarades avec lesquels j'ai été en liaison. Dans l'organisation de la résistance, c'était d'une part des femmes à Auschwitz, mais aussi des hommes. Et le but de la résistance à Auschwitz, c'était d'abord, comme partout, la solidarité matérielle et morale, mais c'était aussi d'essayer d'aboutir à une évasion collective parce que, comme dans tous les camps, il y avait la crainte que les Allemands n'exterminent, au fur et à mesure de l'avance, n'exterminent les déportés pour ne pas laisser de témoins. Et comme à Auschwitz, les partisans polonais n'étaient pas loin, c'est du reste par un Polonais évadé grâce aux partisans que Daniel Casanova avait pu faire parvenir des nouvelles de nous en France, l'idée était de s'organiser pour, quand ils seraient assez prêts, tenter une évasion collective en se disant qu'il y en aura quelques-uns qui sortiront et ceux-là, ils pourront raconter. Parce que ça, c'était une obsession. Le fait de se dire que ce n'est pas possible de crever ici, dans cette fange et cette horreur, et que le monde l'ignore, c'était une obsession. Alors, il y avait donc une préparation, y compris le fait de collecter des instruments pour couper les fils de fer barbelé électrifiés ou de rentrer de la poudre pour faire des explosifs. Et il y avait des jeunes juifs qui travaillaient dans une usine qui s'appelait l'Union et qui fabriquait du matériel de guerre, notamment des torpilles, et qui avaient rentré de la poudre en préparation de cette insurrection et qui ont été prises et pendues dans le camp avec un énorme courage. L'insurrection n'a pas eu lieu avant notre départ et en fait il n'y a eu qu'une révolte du commando, ce qu'on appelait le Sonderkommando, c'est-à-dire le commando spécial, celui qui s'occupait des cadavres qui sortaient de la chambre à gaz. Là, il y a eu une révolte.
Mémoire du siècle, Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Mais je crois qu'une des choses les plus importantes était de lutter contre la volonté des SS d'avilir. Ils se servaient y compris des différences de nationalité. C'est pour ça que je suis si sensible au problème du racisme ou de la xénophobie. Parce que c'était très facile de dresser des gens, des femmes, qui ne se comprenaient pas parce qu'elles ne parlaient pas la même langue et n'avaient pas les mêmes habitudes, les unes contre les autres. Et une des tâches importantes de l'organisation, c'est un mot un peu pompeux, l'organisation, c'était des contacts internationaux pour essayer d'empêcher justement ces conflits et de créer le sentiment de l'union contre un ennemi commun. Et grâce à ça, nous avons pu sauver des vies. Par exemple, il y avait des petites Autrichiennes que j'avais connues à Auschwitz parce qu'elles étaient juives. Et elles avaient été arrêtées en France pour le travail anti-allemand. C'est-à-dire le travail, non, le travail allemand, ça s'appelait le TA, c'est-à-dire le travail de démoralisation à l'intérieur de la Wehrmacht. Elles avaient été arrêtées pour ça. D'Auschwitz, un certain nombre avaient survécu et avaient atterri à Ravensbrück. Et à la fin de Ravensbrück, il y a eu des exécutions, non seulement des gens, des femmes, qui étaient considérés comme des bouches inutiles, dont j'ai déjà parlé. Mais il y a eu, par exemple, de jeunes parachutistes anglaises et françaises qui ont été exécutées. Et les petites Autrichiennes, nous avions su, par l'organisation intérieure du camp de résistance, qu'elles devaient aussi être exécutées. Et elles étaient trois. Deux, on a pu les faire partir en transport vers d'autres camps, dans la pagaille des derniers mois. Mais la troisième avait le typhus, elle n'était donc pas transportable. Et comme elle était d'Auschwitz, elle avait le numéro matricule sur le bras. Alors pour pouvoir se saisir de la carte d'une morte et lui donner un faux nom et une fausse identité, il fallait enlever ce numéro Et c'est à plusieurs de différentes nationalités, dont une chirurgienne polonaise qui a fait l'opération, c'est à plusieurs que nous avons réussi à sauver cette jeune Autrichienne. C'est pour donner un exemple de ce que la solidarité pouvait amener par-delà les différences qui pouvaient y avoir et qui étaient à la fois de nationalité et idéologique. Une de ces petites Autrichiennes était communiste et le docteur polonais qui l'avait opéré était une catholique qui ne partageait certainement pas, par ailleurs, ses vues, mais nous avions un ennemi commun. Et donc, il fallait s'unir contre cet ennemi commun. Alors, je ne dis pas qu'on l'a toujours réussi, mais chaque fois qu'on l'a fait, c'est une grande satisfaction parce que c'était une victoire contre les Allemands et contre le nazisme.
Ravensbrück, 1944-1945, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Pouviez-vous, à cette époque, dans ces circonstances, pressentir que votre libération approchait?
Ah oui, naturellement, parce que nous avons toujours su les nouvelles. Par exemple, quand nous étions à Auschwitz, nous avons su le débarquement en Normandie le jour même, parce qu'il y avait des détenus, généralement pas les Françaises, parce que les Françaises ne connaissaient pas de langues étrangères, donc c'était tout à fait exceptionnel de pouvoir avoir un poste quelconque qui vous mette en liaison avec d'autres. Mais il y avait des filles qui travaillaient pour faire les chambres des SS ou bien les bureaux des SS et qui les entendaient parler. Et il y a des filles qui ont entendu la radio. Donc nous l'avons su le jour même. Quand nous étions à Ravensbrück, pour des raisons que j'ignore, alors que les journaux, même nazis, ne nous parvenaient pas normalement à Auschwitz, que c'est seulement à travers des hommes qui pouvaient se les procurer qu'on passait le communiqué pour pouvoir remonter le moral en indiquant le recul, en particulier, des armées hitlériennes. À Ravensbrück, on avait le Völkische Beobachter, qui était le journal nazi. Et quand on... Bon, naturellement, les communiqués étaient comme sont tous les communiqués de guerre, mais quand on lisait « Nos troupes à l'ouest de Kiev », ben nous savions que Kiev était tombé. Donc nous suivions, oui. Je ne dirais pas au jour le jour, parce qu'on n'avait pas les journaux tous les jours, mais enfin, on suivait très régulièrement, et on savait... Alors, ce qui a été très, très dur, c'est l'hiver 44-45. Parce qu'à partir de la libération de Paris, jamais nous n'avons pensé qu'on passerait encore un hiver. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on ne l'ait pas su, parce qu'il en est mort beaucoup pendant cet hiver, et il en serait mort encore plus si elles avaient su qu'il fallait encore tenir presque un an. Les SS sont partis le 30 avril. Le commandant SS du camp, les SS partant vers l'ouest, laissait 2000 malades, intransportables, et un certain nombre de volontaires de chaque pays qui restaient avec leurs malades. Alors il nous a fait venir et il nous a dit que comme le four crématoire ne fonctionnerait plus, il fallait enterrer les morts, les mortes, et qu'il fallait mettre sur leur tombe une croix de façon à ce que ça ait un aspect convenable. Et moi, je me rappelle avoir... J'ai écrit dans les notes que je gardais des derniers jours de Ravensbrück que c'était, ça me paraissait inouï d'entendre ça de sa bouche quand on pense que 8 jours avant, on avait encore gazé des détenus. Alors ils sont partis Et les soviétiques sont arrivés le lendemain. Les Françaises sont parties les derniers jours d'avril, enfin je crois que c'est le 24, je ne me rappelle plus la date exacte, des convois de la Croix-Rouge suédoise sont arrivés pour emmener les Françaises, les Hollandaises, je crois les Danoises, les Polonaises. Mais il se trouve que nous avions 14 Françaises si malades qu'elles étaient intransportables autrement qu'en ambulance. Alors, le docteur Oval, qui avait fait le périple Auschwitz avec nous, que nous connaissions depuis Romainville, et qui était médecin et française, et moi, nous sommes restés, mais nous n'étions pas restés pour rester. Nous avons expliqué qu'il y avait 14 Françaises qui étaient intransportables. Les convoyeurs de la Croix-Rouge suédoise nous ont dit, ben écoutez, nous revenons demain ou après-demain avec des ambulances. Seulement, entre-temps, le front a été coupé et la Croix-Rouge suédoise n'a pas pu revenir. Et quand les SS sont partis, ils nous avaient coupé l'électricité et l'eau. Alors, comme je n'étais pas infirmière ni médecin, je n'étais pas d'une grande aide pour soigner les malades, je me suis dit, mais moi je vais m'occuper de l'intendance. Et la première de toutes les choses, c'est de voir où il y a de l'eau. Dans le pire des cas, on peut puiser dans le lac qui se trouvait à l'extérieur du camp. Et en fait, j'ai trouvé un robinet. Alors ça, c'était bien agréable. Mais j'ai aussi trouvé qu'il y avait un camp d'hommes, ce que j'ignorais. Et dans ce camp d'hommes, qui était enfermé depuis 8 jours, pratiquement sans nourriture, il y avait une dizaine de gars qui étaient sur leurs jambes encore, et le reste étaient les morts et les mourants couchés pêle-mêle. C'était une abomination. Et parmi eux, la moitié étaient français. Il y avait à peu près 400 français. Ce qui fait que le docteur Oval et moi, nous nous sommes trouvés en charge non seulement de nos 14 françaises malades, mais de tous les malades du camp des hommes, et nous sommes restés avec eux, avec le même problème, à savoir que ceux qui pouvaient repartir, les soviétiques nous ont donné un service sanitaire et nous ont aidés à retaper ceux qui étaient les moins malades. Et au fur et à mesure, il y en a qui étaient évacués. Mais nous, nous sommes restés jusqu'à ce qu'on puisse nous envoyer des ambulances pour évacuer les plus malades. C'est comme ça que j'ai fait un peu de rab. Le 25 juin 1945, je suis rentré.
À Paris.
À Paris. C'était la veille du congrès du Parti communiste. Et je me suis trouvé à la fin du congrès, membre du comité central. Et la même année, candidate pour être députée à la première constituante. Et ensuite, j'ai été parlementaire.
Parlementaire, Marie-Claude Vaillant-Couturier le demeura longtemps. Elle fut même élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mémoire du siècle. Le 28 janvier 1946, à 10h du matin, Marie-Claude Vaillant-Couturier est citée comme témoin au tribunal international de Nuremberg. Oui, le 28 janvier 1946, à 10h du matin.
J'ai été appelé à témoigner au procès de Nuremberg, et je dois dire que c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que être sortie vivante d'Auschwitz est un miracle qu'il est difficile de mesurer. Et en sortant vivante d'Auschwitz et de Ravensbrück, se trouver en face de Göring et des principaux dirigeant nazi, à l'exception de Hitler et de Goebbels qui s'étaient suicidés, et d'Himmler. Mais il y avait encore Kaltenbrunner qui était un des responsables des camps, et Speer qui avait été ministre de la guerre et qui avait été un des utilisateurs de la main-d'œuvre déportée. Alors se trouver en face d'eux était un sentiment extraordinaire. Et je me disais tout le temps, pourvu que je n'oublie rien. Pourvu que je n'oublie rien. Et quand je suis passée devant le box des accusés, j'ai passé très très lentement pour les regarder. D'abord, par une espèce de curiosité de comment est-ce que ça peut être fait des hommes qui sont responsables de tels crimes. Et de constater que ce sont des hommes qui ont l'air de n'importe qui. Et aussi parce que je me disais, regardez-moi ce qu'ils ne faisaient pas, parce que par mes yeux, ce sont des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vous accusent des crimes que vous avez commis, et par ma bouche, ce sont eux qui vous parlent. Beaucoup de critiques ont été faites au tribunal de Nuremberg. Moi, je sais que, moi, à l'époque, j'étais un peu impatiente. Je trouvais que ça mettait longtemps, que le fait que ça dure des mois et des mois faisait que l'opinion publique s'en lassait. Et leur culpabilité me paraissait si flagrante que je ne comprenais pas pourquoi on entrait tellement dans les détails. Maintenant, avec le recul des années, je trouve que la grande vertu du tribunal de Nuremberg, c'est d'avoir concrétisé la notion de crime contre l'humanité. Parce que si les nazis ont perfectionné scientifiquement leur méthode d'extermination, ce ne sont pas eux qui ont inventé l'extermination. Des peuples entiers ont été exterminés dans l'histoire. La torture, on a emprisonné et effroyablement torturé à travers toute l'histoire de l'humanité. Mais on le faisait avec bonne conscience. Eh bien, je trouve que maintenant, de savoir qu'il existe cette notion de crime contre l'humanité, c'est un progrès de la conscience humaine, une notion plus élevée de civilisation. Et je trouve que c'est ça le grand mérite du tribunal de Nuremberg, même s'il est vrai que les droits de l'homme ne sont pas respectés, et de loin, dans tous les pays du monde, enfin qu'il y a une majorité de pays où ils ne sont pas respectés, je trouve néanmoins que aussi que la notion de droit universel de l'homme, c'est un progrès. Et que, ben, à nous de lutter pour le respect de cette notion.
C'était proposé aujourd'hui par Georges Léon, Mémoire du siècle, celle de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Réalisation Marie-Vonne Noël, mixage Michel Sonneau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 décembre 1985. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.